Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. L'histoire commence au tournant des années 20, au fond d'un lac gelé de Russie. Elle met en scène un cosaque anarchiste, une jeune princesse tsariste, un leader bolchevique particulièrement cruel. Mais dans cet album où se mêlent récits historiques, histoires d'amour, bagarres et courses-poursuites, on croise aussi un terrible et inquiétant golem métallique, un cheval philosophe qui s'appelle d'ailleurs Platon, un général à la moustache généreuse et quelques autres personnages qui évoluent dans un univers qui rappelle tour à tour ou en même temps les mangas, la BD franco-belge, les super-héros et même les cartoons américains. Étonnant mélange que ce premier album réalisé par Melody Sizinski, storyboardeuse pour les studios Pixar en Californie. Elle est en ligne avec nous d'Auckland pour nous présenter Le Chaos, le premier tome de la Révolution des damnés. Il est paru aux éditions Robinson et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Melody Sizinski.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous choisi la Russie comme décor de cette première bande dessinée ?
J'ai toujours été fascinée par la Russie via la littérature russe, Dostoïevski, Tolstoï, etc., Gogol. J'ai jamais été en Russie, mais par contre, au travers des livres, j'ai vraiment un peu fantasmé là-dessus. Et puis, je suis très intéressée par l'histoire. Et je me suis toujours dit, en lisant ces romans, qu'il y avait quelque chose de fondamental qui était une sorte de blueprint, c'est-à-dire de miroir inversé de notre propre histoire, et donc pour comprendre d'où on vient, étudier ce pays, cette histoire, nous donnerait pas mal de perspectives.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé l'âme russe, on peut dire ça comme ça ?
Oui, et puis tout simplement, nous sommes assez liés, les Russes, ils parlaient français à l'époque, il y a quelque chose quand même qui nous lie entre la Russie et l'Europe, et puis je sais pas, il y a quelque chose de très brutal, et extrême dans ce qui se passe dans l'histoire russe, qui peut expliquer ce qui se passe de manière un peu plus modérée en Europe, en gros. Mais toutes la révolution communiste, toutes les luttes sociales de cette époque, l'effondrement de l'aristocratie, la religion un peu extrémiste, orthodoxe du coin. Enfin, tout ça, je trouve que c'est un petit peu une façon d'étudier notre propre histoire.
Oui, et c'est précisément pour cette raison-là que vous avez choisi de situer votre récit dans cette période de la révolution russe, qui est un peu une période charnière, hein, puisque elle ouvre en réalité l'histoire du XXe siècle en Europe.
Exactement, j'ai vraiment compris en lisant par exemple Les démons de Dostoïevski que ça expliquait parfaitement les origines du terrorisme moderne. Évidemment, la révolution russe explique aussi toutes les tensions de notre société moderne. Donc, et puis c'est également un moment charnière par rapport au monde ancien qui se fait dévorer par le monde moderne où l'homme devient dominant et non plus dominé. Oui, c'est un moment à la fois charnière dans le temps et dans l'espace.
Alors vous faites référence, Melody Sizinski, à des faits historiques. Hein. Par exemple, vous évoquez la révolte des marins de Kronstadt en mars 1921, le dernier grand mouvement d'opposition ouvrier contre ce qu'on appelait à l'époque le communisme de guerre. Dans quelle mesure les livres d'histoire, hein, de l'histoire avec un grand H, vous ont servi à nourrir votre scénario ?
Eh bien, en fait, ça m'a permis de donner un espèce de background, de fond vraiment solide pour savoir de quoi je parlais. Moi, ce que j'aime, c'est utiliser mes personnages de manière à ce qu'ils symbolisent de manière archétypale des mouvements ou des positions qu'on peut avoir par rapport à un événement donné, et ça m'a permis de pas raconter n'importe quoi, c'est-à-dire que de découvrir en étudiant cette histoire des marins de Kronstadt par exemple, que bah ils étaient à l'origine de la révolte des bolcheviks, ils les ont aidés à les mettre au pouvoir, croyant sincèrement à leur mouvement, et ils se sont fait trahir 4 ans après, ils se sont fait exterminer par les bolcheviks. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est un peu cette logique-là que j'ai voulu donner au travers de mes personnages.
Стой!
base de votre récit, Mélodie Sizinski, à la base de La Révolution des damnés, que vous publiez, rappelons-le, aux éditions Robinson, il y a une amitié entre deux personnages masculins, deux amis d'enfance, Yuri et Nikita. Celui qui nous fait entrer dans le récit, c'est Yuri. C'est un cosaque anarchiste. Vous pouvez nous le présenter ?
Oui, bah, c'est un espèce de bon vivant en apparence, qui est un homme à femme, quelqu'un qui aime l'aventure. Et puis on perçoit assez vite qu'il a quand même un passé assez lourd avec Nikita, du fait qu'ils étaient amis et aujourd'hui ils sont simplement, on va dire, alliés, objectifs. Et puis mon but c'était de voilà de d'élaborer un personnage assez complexe qui au final refuse de se connecter aux autres. Et donc son arc narratif à lui, c'est de cette rencontre avec cette petite princesse à un moment, et de malgré lui s'attacher à quelqu'un alors qu'il refusait de le faire à cause d'un chagrin d'amour tragique. Mmh. Il a perdu la femme qu'il a aimée, qu'il a jamais su protéger, et dont il a jamais su lui dire vraiment qu'il aimait correctement. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment faire un portrait voilà d'un personnage complexe.
Alors graphiquement, il a un visage plutôt sympathique, hein, et avec une grande bouche, un visage plutôt rectangulaire, mais c'est quand même un soldat. Hein, et puis les Cosaques, ils ont quand même une sacrée réputation de combattants.
Ah oui, bah ça me fascine. Hein, de toute façon, les je crois que pour être très franche, si je devais chercher au fond de mon subconscient, j'ai voulu faire un Cosaque parce que j'ai été fascinée par Tintin et les Soviets ouais. Quand j'étais petite. Et puis ça m'a marqué. Et puis j'ai lu les Cosaques de Tolstoï. J'ai trouvé ça incroyable.
Ouais, avec sur la tête.
Voilà, j'y connais pas grand chose, mais je trouve que c'est quand même des soldats d'élite incroyables.
Oui, avec sur la tête une toque, mais une toque à tête de mort. Alors je sais pas, moi ça m'a fait penser à Albator. C'est peut-être complètement fou.
Alors mais... oui, il y a beaucoup d'Albator aussi au travers de Nikita, son ancien ami.
Ouais.
Mais effectivement, la toque. En fait, pour le coup, c'est documenté. Il s'agit pour lui, quand il met cette toque-là, ça symbolise le fait qu'il est en espion auprès des tsaristes, de l'armée tsariste. Et en fait, il utilise un uniforme cosaque tsariste. Qui du coup avait des vraies têtes de mort, j'en ai vu plein.
D'accord, donc vous avez rien inventé à ce niveau-là. Un mot.
À ce niveau-là, non.
Alors un mot, Mélodie Sizinski, de sa relation qui est quand même pas banale, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son cheval. Son cheval, il s'appelle Platon. Et là, encore une fois, je me suis dit clin d'œil à Lucky Luke. Oui ou non?
Oui, c'est un peu un clin d'œil à Lucky Luke, c'est un clin d'œil à Réponse. Vous savez, le cheval dans Réponse, il est extraordinaire.
De Disney, ouais.
Le film de Disney. Il m'a beaucoup marqué, et puis évidemment dans Lucky Luke, et il y a quelque chose aussi de... Bah, il y a aussi l'écureuil de Spirou. Je pense que tous les héros, ils ont un animal un peu... voilà. Et Platon, parce que en fait, en cherchant des noms, vous savez, des noms russes, je me suis aperçu que Platon, c'était un nom courant en Russie, et je me suis dit, bon, bah, allez. Et en fait, en vérité, je vous remercie d'en parler parce que c'est mon personnage préféré et il va prendre beaucoup d'importance au tome 2.
Ah, d'accord. On attend de voir effectivement comment Platon va évoluer. Alors, Yuri, on l'a dit, est anarchiste et son ami d'enfance, Nikita, lui, est communiste. Alors, c'est un vrai bolchevique, hein, rouge vif, hein, si j'ose dire, un nihiliste rouge comme son manteau qui flotte au vent, ou son képi orné d'une étoile noire. Alors, autant Yuri, je le disais, a le visage très rectangulaire, autant Nikita, lui, a le menton très pointu, hein. C'est un vrai triangle. C'est un personnage plus anguleux que les autres.
Oui, c'est un personnage qui a beaucoup de mal avec la vie, en fait, hein, tout simplement. Autant Yuri, même s'il est déconnecté des autres, il arrive quand même à entre guillemets jouir de l'existence, tout en prenant soin de pas s'attacher. Mais autant Nikita, c'est quelqu'un qui ne mange pas vraiment ou qui se maîtrise tout le temps et qui est vraiment dans le contrôle. C'est un psychopathe, hein, on va pas se mentir.
Voilà.
Il est très très inspiré. Alors pour le physique, il est inspiré d'Albator parce que c'est assez charismatique, le manteau, etc., la cicatrice. Mais en réalité, mon inspiration première, c'est le méchant ou le personnage principal des démons de Dostoïevski, qui est vraiment, pour moi, le plus gros psychopathe de l'histoire de toutes les histoires. Quoi. J'ai jamais vu un personnage aussi effrayant. Et j'ai vraiment voulu Voilà, pour moi, une bonne histoire, voilà, un petit peu d'action comme ça, ça mérite un personnage méchant vraiment très effrayant. Et donc voilà, le physique reflète ça à son maximum.
Voilà, alors le physique, on le découvre pas dans sa totalité au début parce qu'il est caché sous ce grand manteau rouge. Je laisse le lecteur découvrir la surprise qui, quand on découvrira ce qu'il y a dessous. Nikita, c'est vraiment un personnage cruel, hein, vous l'avez dit, Melody Cizinski. Il écrase l'autre au propre... comme figuré. Alors on comprend assez vite que Yuri et Nikita ont été très proches, presque comme des frères, qu'ils vivent dans le souvenir d'une jeune fille, que leurs chemins se sont éloignés à cause de ça et à cause de la politique, mais ils ont un ennemi commun, en l'occurrence le tsarisme. Ils vont d'ailleurs s'allier pour éliminer la dernière représentante de la famille des tsars, la famille Romanov, une charmante petite fille qui s'appelle Nadia. Alors charmante, c'est clair, elle a l'air complètement innocent. Mais c'est une sacrée peste, quand même.
Ah oui, c'est une peste totale. Bon, bien sûr, c'est un petit peu classique, hein, le petit prince ou la petite princesse capricieux, mais effectivement, je l'ai porté à son maximum. C'est une petite fille qui est de prime abord vraiment pas très sympathique, à part dans son apparence.
Oui.
Mais au final, j'ai essayé de montrer que ça reste une enfant, donc c'est pas... C'est sa manière dont elle a été élevée qui la rend insupportable, et elle a été élevée dans le fait d'être un demi-dieu, donc et puis également elle a été élevée dans son amour en étant cachée, son rapport au monde, il est dans la domination ou dans le fait d'être dominée, elle est utilisée par le général tsariste. Donc elle a quand même toutes les excuses du monde pour être se comporter comme ça, et son parcours à elle, son arc narratif, ça sera de se connecter au monde pour la première fois et d'avoir des vrais rapports humains. Et c'est aussi ce que je vais démontrer dans le tome 2. Elle va rencontrer des gens qui vont l'aimer pour de vrai, quoi. Et effectivement, Yuri sera la première personne à lui parler normalement,
oui,
à lui répondre. Et ça va la bouleverser de ce fait.
Oui, moi je la trouve absolument craquante. Alors il y a un autre personnage fictif qui prend toute sa place dans la dernière partie de l'album, mais qui est présent de façon un peu plus discrète dans les toutes premières planches, et qui est présent de façon, alors là, pas du tout discrète sur la couverture de l'album. C'est ce golem machine avec la faucille communiste à la place de la tête. Comment est-ce que vous l'avez imaginé, ce golem, Melody Cizinski?
Alors en fait, pour être très franche, j'ai fait une illustration il y a 10-12 ans, un peu au hasard, avec un soldat protégeant une petite princesse dans la steppe enneigée, poursuivie par un robot géant. Mais ça faisait un peu trop jeu vidéo, un peu trop gratuit, et au final, à force de rechercher dans la mythologie russe, bon, en l'occurrence un peu juive.
Oui, parce que le golem, c'est une figure assez classique. Oui. Voilà.
Mais disons que c'est un mélange entre le golem et le kolchei, qui est une figure mythologique russe, païenne, qui en fait peut fonctionner tant qu'il ignore qu'il est mort. Et donc il faut comment dirais-je, que la mort soit cachée dans un objet qui est caché dans un objet, enfin comme des poupées russes. Et donc tant que cette espèce de golem ignore sa propre mort, il peut bouger et dévaster un peu tout. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant, que ça pouvait correspondre pas mal à une sorte de marionnette que pouvait utiliser Nikita à ses fins monstrueuse.
Mais alors justement, là on n'est plus du tout dans l'histoire avec un grand H, là on est dans le fantastique. Comment est-ce que vous avez mélangé les deux sans nuire à la crédibilité du récit historique?
Ça nuit quand même
un petit peu quand même, oui. Mais justement, quelles sont les limites que vous vous êtes données?
Vous demandiez tout à l'heure par rapport à comment j'ai utilisé l'histoire, c'est-à-dire que j'ai cherché vraiment à respecter les logiques. C'est-à-dire que les bolcheviks ont vraiment utilisé les cosaques et les cosaques anarchistes pour à leur fin, tout en les écrasant à la fin. Si vous voulez, j'ai respecté les logiques globales, mais effectivement, voilà. Et le golem, en fait, pour moi, je l'ai utilisé comme un symbole, c'est-à-dire que les bolcheviks, tel Nikita, donc pouvaient utiliser tout et n'importe quoi pour arriver à leur fin. Et le golem, pour moi, du fait en plus des événements récents, de la pandémie, etc., par exemple, s'est mis à devenir de plus en plus symbolique du monde ancien, c'est-à-dire le monde où la nature dominait l'homme. Et en fait, Nikita se sert même de ça, alors que finalement, il le nie, hein, il y croit même pas quand il l'utilise. Mais disons que voilà, j'ai cherché à vraiment symboliser de manière assez claire beaucoup de notions de ce moment-là.
Of your skin, I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit.
Peaches, Justin Bieber featuring Daniel César dans VMDN sur RFI avec Mélodie Sizinski pour son premier album de bande dessinée La Révolution des Damnés chez Robinson. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, hein, Mélodie Sizinski, de faire des interviews en direct d'Oakland en Californie. Merci de vous être levé tôt pour répondre à nos questions, puisque chez vous il est à peine 8h du matin, et si vous êtes à Oakland c'est parce que vous y travaillez, hein. Vous êtes storyboardeuse pour le studio d'animation Pixar qui affiche à son catalogue Toy Story, Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Lao et j'en passe. Comment est-ce que vous êtes entré là-bas ?
Un peu par hasard. J'ai vécu à San Francisco un petit moment et puis j'ai rencontré des gens et ça m'a vraiment titillé. J'ai senti que j'avais du potentiel pour rentrer là-dedans. Et puis j'avais envie de me challenger, donc je me suis mis à travailler assez dur pour correspondre un peu à leurs attentes. Et puis au bout de quelques années, à force de travailler un peu pour les studios américains en général, j'ai pu avoir assez d'expérience pour avoir un visa et me faire embaucher.
Oui, vous avez fait l'école des Gobelins, l'école de l'image à Paris, c'est-à-dire que au-delà de la bande dessinée, votre ambition première c'était de travailler dans l'animation ou le jeu vidéo ?
Alors, figurez-vous que c'est l'inverse.
Ah oui.
J'ai voulu faire de la bande dessinée tout de suite quand j'étais petite. Moi je faisais des BD dès que j'avais 6 ou 8 ans, mais effectivement en lisant un bouquin qui parlait justement de l'histoire du parcours de Peyo, vous savez, celui qui fait les Schtroumpfs, de Franquin, celui qui fait Spirou, et Maurice, celui qui fait Lucky Luke, je me suis aperçu qu'ils ont tous travaillé dans l'animation à leur début, qu'ils étaient fascinés par Disney, même Uderzo hein, également, ça se voit. Et je me suis aperçu que pour être vraiment bon dessinateur de BD, il fallait sans doute avoir la rigueur d'un dessinateur d'animation comme eux. Et donc, au bout d'un moment, je me suis convaincue de rentrer au Gobelin pour cette raison. Et puis au final, à force, je suis pas tombée amoureuse de l'animation, pour être franche, ça m'est un peu égal. Par contre, je me suis vraiment énormément, je suis tombée amoureuse du cinéma. Donc là, clairement, j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup de films. Et pour moi, Pixar, c'est vraiment le haut de gamme en termes de... Enfin, pas toujours, mais en gros, on essaye quand même de se hisser vers quelque chose qui se penche vers du vrai cinéma, quoi, au-delà de l'animation elle-même.
Et regarder beaucoup, beaucoup de films, comme vous dites, ça vous aide justement dans votre travail de storyboardeuse ?
Oui, oui, oui. Et puis même dans mon travail de bande dessinée, moi j'ai dans mon travail de storyboardeuse, si vous voulez, pour moi la bande dessinée, le storyboard, c'est un peu la même chose. J'ai un regard cinématographique quoi qu'il arrive. Et mais effectivement, dans le storyboard, c'est absolument essentiel de se cultiver. C'est comme lire des livres pour écrire quoi. Il faut à un moment donné, il faut s'éduquer quoi.
Alors, quel film avez-vous regardé pour votre métier de storyboardeuse et pour la révolution des années?
En tant que storyboardeuse, moi, mes films préférés, il y en a plein, mais bon, on va dire pour les classiques, je pense que étudier Hitchcock de manière très très précise, c'est vraiment fondamental. Mais également, des films qui m'ont vraiment marqué, ce sont les films genre Trois couleurs bleues de Kieslowski, les Wong Kar-wai, Chunking Express, un film récent qui m'a marqué, c'est Roma de Cuaron. Mais également des films très très anciens comme The Phantom Carriage, je sais plus le nom, mais c'est Victor, je sais plus son nom, mais enfin voilà, bref, il y a des films comme ça qui m'ont beaucoup marqué. Et pour la révolution des damnés, il y a les films russes hein, de toute façon en général, et puis les films de un peu voilà les films allemands des années 30-40, Murnau, voilà, Fritz Lang, etc. quoi.
Et vous voilà donc à la fois autrice de bande dessinée et storyboardeuse donc chez Pixar en Californie, où vous avez notamment travaillé sur Les Indestructibles 2.
Je suis le démolisseur !
Surveille Jack !
Mais je croyais qu'on devait aller avec...
T'as entendu ta mère ? Trampoline-moi ! Comme on se retrouve...
Les super-héros sont hors la loi.
Nous, on veut faire la bagarre !
Allez-vous y mettre !
La sentence est irrévocable.
Ça ne veut pas dire que tu... Quoi ?
Ouais, j'ai entendu ça à la télé.
Ce millionnaire voudrait qu'on le rencontre. Il y a un truc de super-héros dans l'air.
Il est temps pour les super de reprendre du service. Il nous faut Elastigirl.
Au revoir, chérie.
Je m'occupe des enfants, hein, t'inquiète pas.
Non, c'est pas comme ça que le prof nous a dit de faire, papa. Il veut qu'on fasse comme ça.
Mais je sais pas faire comme ça. Pourquoi ils veulent changer les maths? Les maths, c'est les maths. On ne change pas les maths.
Partout dans Dodoville, les dodos s'endorment en attendant le réveil. Ils sombrent dans le...
Sommeil!
J'y serais pas arrivé si t'avais pas pris le relais.
Il faut que je réussisse. Pour qu'elle réussisse!
Regardez, c'est Elastigirl!
Pour qu'on réussisse!
Arrête de m'engueuler!
C'est quoi ça?
C'est flippant! Mais je ne peux pas le nourrir qu'avec des cookies!
Oh! Quelle horreur!
Il me mord, il me mord!
Quoi?
Bien élever un enfant est un acte héroïque. C'est tout un art. Il y a l'art et la manière.
Alors moi, quand je vais dire à ma filleule ou à ma nièce que j'ai travaillé sur quelqu'un qui elle-même a travaillé sur Les Indestructibles 2, ça va être de la folie. Vous pouvez nous expliquer, Mélodie Cizinski, comment on travaille comme storyboardeuse chez Pixar pour une énorme production comme celle-ci? C'est un travail collectif, c'est une sorte d'usine, non?
Oui, c'est une usine, mais après ça dépend des productions, enfin des films, mais voilà, en général, à Pixar, ils sont quand même... c'est assez sympa, quoi. On fait des choses... c'est collégial... Après, en ce qui concerne Incredibles 2, c'était extrêmement intense parce qu'on avait un an de moins par rapport à ce qui était prévu, parce qu'ils ont inversé la date de sortie de Toy Story 4 et Incredibles 2, et que Brad Bird, le réalisateur d'Incredibles 2, a décrété que ça lui rappellerait sa jeunesse de travailler en rush.
Ah oui, d'accord, donc mais il a fallu vrai, accélérer.
En vrai, il était très fatigué à la fin, il a dit « Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais en vrai, ils ont toujours, autant lui, les producteurs ont toujours dit « Voilà, essayez de travailler dur, mais essayez d'être sympa les uns avec les autres, ça va être vraiment difficile. » Ils ont toujours été très très bienveillants, ils ont toujours essayé de nous faire rire et de pas se prendre au sérieux pendant les réunions. C'était vraiment un à la fois, comment dirais-je, c'était intense et en même temps c'était un plaisir.
Alors, comment ça se passe concrètement? On vous donne un script, des indications très très précises, et vous dessinez, vous imaginez les cadrages, les personnages, les positions, etc.
Alors en fait, en général, c'est beaucoup plus vague que ça.
Ah oui.
Je pensais que ça serait super organisé comme ça, mais pas du tout. La manière de travailler à Pixar, c'est de... On est engagé comme storyboarder pour faire des miracles.
D'accord.
Et pour aller, pour être à fond dans l'improvisation et faire un truc incroyable à la fin. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas normal. Mais Je vais commencer à chercher à me plaindre, mais en fait, pas du tout. La vérité, c'est qu'ils engagent vraiment les meilleurs du monde en storyboard, et après, on se débrouille. Il y a eu des moments où il n'y avait pas du tout de script dans Incredibles 2, et je voyais Brad Bird dire « Bon, bah voilà, en gros, par exemple, les séquences d'action, il n'y avait pas de script. » Donc, en gros, il disait aux gens, par exemple, la séquence avec le train et ouais. Elastigirl, ben voilà... Bah, il y a Elastigirl, elle a sa moto, et puis elle doit chasser un train. Bon, bah voilà, tu peux faire quelque chose.
D'accord, donc vous y allez, et c'est nos limites.
Bah, en fait, Brad Bird, c'est quelqu'un, donc le réalisateur, hein, qui engage vraiment les meilleurs, donc du coup, il leur fait confiance. Et puis à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye toujours d'écouter le point de vue des storyboarders. Et ensuite, il essaye de le transcender, c'est-à-dire qu'il nie pas leur rapport, il essaye de l'améliorer. Ce qui est différent de beaucoup d'autres réalisateurs qui peuvent, pour leur par des problèmes d'ego, ils peuvent chercher à mettre leurs pattes ou voilà, ils sont pas sûrs d'eux. Mais Brad Bird, c'est quelqu'un vraiment qui est capable de faire confiance quand nécessaire et qui en même temps a une très forte personnalité, extrêmement expérimentée. Et donc voilà, c'est redresser les erreurs quand il faut. Mais bon, en temps normal aussi, il y a des scripts et évidemment, on essaye de suivre le script. Mais ce qui est bien à Pixar, c'est qu'on est quand même assez libre si nécessaire. Ça dépend des moments, mais il y a aussi des moments où, par exemple, au tout début d'une production, dans un film, il n'y a pas du tout de script et c'est normal. Et on est là pour aider le réalisateur à simplement trouver son idée et à trouver les personnages, leurs relations. Enfin, vraiment, le métier de storyboarder à Pixar est beaucoup plus large que dans un autre studio. Il faut vraiment imaginer que c'est un peu un trompe-l'œil de dire que qu'on est juste storyboarder. On aide au développement d'un film en général. Quoi.
Et vous, pour La Révolution des Damnés, Mélodie Sizinski, vous avez fait un scénario très très écrit ou vous êtes passé directement par l'image?
Alors moi j'ai vraiment essayé d'écrire un script de film, de long métrage, parce que j'ai écrit ce projet parce que j'arrivais pas à me faire embaucher sur des longs métrages en France, parce qu'en France il faut une espèce de carte. En gros, si on est que sur de la série télé, eh ben on n'a pas la carte pour être sur des films. Et j'ai trouvé ça injuste, et au lieu de me plaindre, j'ai essayé d'écrire moi-même un scénario de qualité, entre guillemets, long métrage. Et puis au final, effectivement, voilà, j'ai écrit un script de long métrage. Et puis après, il y a Robinson, donc l'éditeur, qui m'ont contacté deux ou trois fois. Et au bout d'un moment, j'ai accepté d'en faire une bande dessinée.
Alors, vous utilisez effectivement ce savoir-faire de storyboarder à fond. Hein. Alors, ça se voit, par exemple, dès la première planche, hein, celle du prologue. Vous avez choisi, comme souvent au cinéma, de commencer par la fin. Alors, c'est une scène de noyade hein, dans un lac en Russie. Celui qui se noie, c'est le personnage de Yuri, le cosaque. Et il se noie, et le jeu de mots est trop tentant. Vous le dessinez en plongée. Alors on a vraiment l'impression de le voir à travers l'œil d'une caméra posée verticalement, comme ça, l'œil vers le bas. Vous pouvez nous décrire cette planche, Mélodie Sizinski?
Alors moi, ce que j'adore, c'est les pleines pages dans Blake et Mortimer. Je trouve ça génial. Donc j'en ai mis pas mal dans ma BD. Donc là, c'est une pleine page de effectivement Yuri qui plonge dans les abysses avec le golem en silhouette qui l'englobe, quoi, qui est derrière lui. Et on sent qu'ils ont ils sont en train de plonger, qu'ils sont en train de se désintégrer, lui de se noyer.
Ouais, et tout au long de l'album, on a en permanence justement ces changements de cadrage, de perspective, de focale. Ça donne une dimension vraiment très très vive, très très alerte. On a l'impression que vous jouez en permanence et avec le lecteur et avec vos personnages. On change de perspective, de point de vue. On voit les personnages de face, de dos, de profil, de trois quarts. Ça change tout le temps. Donner du mouvement au récit, c'est une obsession chez vous?
Alors en fait, oui, c'est-à-dire que pour moi, la bande dessinée, alors même si j'admire énormément la bande dessinée classique, je la vénère. Hein.
Mais là, on est très loin de Blake et Mortimer quand même.
Effectivement, mais j'adore Blake et Mortimer, mais effectivement, je suis quand même élevée par les mangas, donc j'ai un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que y a quelque chose. En gros, j'ai lu Akira, j'avais 8 ans. Et Akira, pour moi, c'est le summum du storyboard en bande dessinée, c'est-à-dire que c'est du cinéma meilleur que du vrai cinéma. Et pour moi, la bande dessinée, c'est une façon de faire du cinéma pas cher. Donc pour moi, la façon de faire du storyboard en bande dessinée, de mettre en scène, c'est vraiment de filmer, quoi. Et comme au cinéma, on a des focales, on change de point de vue. pour moi, encore une fois, le but, c'est vraiment de raconter une histoire de la meilleure manière possible. Et pour moi, le cinéma nourrit la bande dessinée, qui nourrit le cinéma. C'est ce que j'ai vraiment découvert quand j'ai étudié le parcours de Franquin, de Maurice et de Peyot. C'est à quel point ils auraient jamais révolutionné la bande dessinée s'ils n'avaient pas été intéressés par Disney à l'époque.
Alors il y a des cases tout en longueur, hein, horizontale, verticale, oui. On n'est pas du tout dans le gaufrier classique. Qu'est-ce qui détermine justement le découpage des cases au sein d'une même planche, Mélodie Cizinski?
Je pense que c'est une façon de... C'est un peu comme quand je fais du storyboard pour le cinéma, c'est-à-dire j'essaye de voir ce qui visuellement est dynamique entre chaque case... Et effectivement, il y a des moments où on focus sur l'émotion d'un personnage, donc c'est plus un gros plan. Ensuite, on doit plus faire un establishing, c'est-à-dire essayer de montrer un petit peu l'espace, le décor dans lequel les personnages évoluent. Voilà, après, c'est ce qui détermine, en fait, c'est quel est le point de vue. Quel est le point de vue le plus pertinent pour raconter tel moment de l'histoire.
D'accord, donc vous choisissez alternativement de privilégier tel ou tel point de vue, dont tel ou tel personnage, pour que le lecteur ressente les émotions le plus fortement possible. C'est ça, l'objectif, en fait.
Oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait voir quand on étudie de très très près les films de Hitchcock, qui sont incroyables en termes de storyboard, parce qu'il alterne, il joue tellement bien avec les points de vue, avec la... et on peut comprendre de manière sans le texte, sans les dialogues, qu'est-ce qu'il se passe juste en étudiant visuellement ces films. Et c'est ça, c'est à ça que j'aspire, que ce soit dans mes storyboards d'animation ou dans mes bandes dessinées.
Alors on va prendre quelques exemples. Par exemple, à la page 64 de votre album, vous dessinez une chevauchée. Hein. Alors là, c'est encore le personnage de Yuri qui est qui chevauche Platon. Qui est donc Platon sur cheval, je le rappelle, hein, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. c'est vraiment lui qui est un peu le héros. On a l'impression qu'il nous fonce dessus, hein, nous qui tenons l'album. Comment ça se dessine cette dernière case, donc au bas de la page 64?
Ben écoutez, le but là, c'est de montrer. On commence le début de la page, ce sont des soldats tsaristes qui sont en train d'exécuter des rebelles, des soldats bolcheviques. Et la fin, justement, cette fameuse case que vous décrivez, c'est Yuri qui vient à leur secours. Donc le but c'est de montrer le point de vue des soldats tsaristes. Donc de voir Yuri qui leur arrive dessus, justement sur la figure, et donc le but c'est pour moi le choix du point de vue, c'est simplement vous voyez, vous ressentez ce que ressentent les soldats tsaristes parce que je vous ai montré le point de vue d'Yuri qui vous arrive dessus. Donc c'est d'arriver à transmettre un sentiment, une émotion à travers un cadrage.
Oui, avec cette ligne de fuite, on a presque une impression d'un triangle, hein, qui part comme ça vers le fond de la case. C'est toujours compliqué à dessiner un cheval, parce que alors là, depuis le temps que je fais cette émission, on a reçu plein de dessinateurs, et certains qui disent un cheval, non, ça va, c'est pas si compliqué que ça, et d'autres qui nous expliquent que c'est certainement le plus difficile à dessiner. Herman, par exemple, qui en a fait des westerns, nous dit le cheval, c'est très compliqué. Vous confirmez ou pas?
Oui, je confirme.
Ah oui.
mais après, moi, je joue de mes maladresses, c'est-à-dire que j'assume le fait que ce soit pas toujours très régulier, ma manière de dessiner. J'ai une manière de dessiner très très lâchée.
Oui.
Et volontairement, j'essaye de pas en avoir honte et de privilégier l'émotion sur mes problèmes anatomiques quand je dessine. Et voilà, donc du coup ça rend le personnage vivant, quoi.
Bon, vous dessinez uniquement à la main ou vous utilisez l'ordinateur?
Ah non, c'est que de l'ordinateur, malheureusement, parce que comme je dessine après le travail, mon travail à Pixar, j'ai pas du tout le temps de faire des planches à la main. Non, c'est malheureusement,
hein. Ouais.
Et puis le fait est aussi que je joue beaucoup, vous savez, des ambiances, des ombres et lumières comme dans un film, hein.
Oui.
Donc il faut énormément jouer sur Photoshop, sur l'ordinateur pour pouvoir poser ce genre d'ambiance lumineuse.
Oui, alors justement, on va en dire un petit mot sans raconter trop l'histoire quand même. Là, il y a une double page de combat, là, la page 158 et la page 159, avec le golem qui est un personnage absolument majeur. Comment justement vous avez joué sur les couleurs, Mélodie Cizinski?
Alors pour les couleurs, en fait, j'ai d'abord essayé de comprendre mes contraintes. C'est-à-dire, j'ai pas le temps parce que je travaille cette BD après mon propre travail. Donc j'ai fait des choses assez simples qui, en plus, correspondaient à l'ambiance sépia de des films expressionnistes allemands ou russes des années 20, 30, 40. Donc effectivement, les ambiances un peu vieilles photos, voilà. Et puis j'ai essayé d'amener des couleurs assez brutales. Mais simple, mais voilà, pour rester dans quelque chose de rapide à faire, je suis restée dans une ou deux couleurs majeures et puis du noir et blanc, du sépia. Et là, en l'occurrence, c'est une page d'explosion, quoi, d'extrême action. Donc, il se trouve que c'est engendré par le golem, donc qui est donc un golem manipulé par Nikita qui est bolchevique. Donc, en l'occurrence, cette page est très très rouge et voilà. Puis ça correspond à quelque chose d'apocalyptique, évidemment.
Oui, avec ces onomatopées. Alors, elles sont assez singulières vos onomatopées Melody Sizinski. Hein, c'est pas évident d'ailleurs de les lire toujours en français. Hein. Il y a beaucoup de consonnes, assez peu de voyelles.
C'est vrai. Bah écoutez, j'ai l'habitude des onomatopées japonaises auxquelles je comprends rien, mais qui sont quand même visuellement, qui permettent quand même de ressentir le bruit que ça pourrait faire.
Oui, alors il y a aussi une autre scène que je voulais évoquer avec vous, page 40, hein, en bas de la page. Alors là, il n'y a pas du tout de rouge, c'est plutôt un mélange entre les gris, on va dire différentes sortes de gris, le noir toujours, hein, c'est quand même une couleur très très présente dans l'album, et puis le jaune. Alors c'est une attaque de bateau. Décrivez-nous et expliquez-nous les traits. Si vous voyez ce que je veux dire, on est à la fois dans les embruns, dans la vitesse, dans le combat. Elle est extrêmement composite, cette case.
Alors en fait, oui, c'est une case qui correspond en fait à la bataille bataille qui a achevé la guerre russo-japonaise de 1905. Donc c'est des Japonais qui attaquent un navire russe et qui sont en train de le décimer. Et alors moi, je suis très 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 mon réalisateur préféré de tous les temps. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Kurosawa, qui est quelqu'un qui, au-delà de son talent pour mettre en scène, pour tout, jouait énormément des éléments naturels pour raconter un sentiment au travers de chaque plan. Et donc, je me suis beaucoup sensibilisée au fait de raconter une ambiance et un sentiment en mettant en scène de la pluie, du feu, de la fumée. Et effectivement, une tempête peut aussi raconter un sentiment. Donc, effectivement, la case est très touffue, mais ça correspond un petit peu à l'état d'esprit de Yuri à ce moment-là.
Oui, touffu et parlante en même temps. Alors là, on est au cœur d'un des flashbacks, et il y en a plusieurs, hein, des flashbacks qui rythment aussi votre récit, qui explique le passé des principaux personnages, qui permettent vraiment de entrer à la fois dans leur vie et dans leur psychologie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de dessiner ces pages de flashback-là sans dialogue?
Alors, c'était un challenge personnel. C'était aussi pour que le lecteur ne soit pas confus entre les pages normales et les pages de flashback. Je me suis un peu battue avec mon éditeur pour en arriver là, parce que c'est pas évident, hein, on est bien d'accord. Mais et puis en plus, je crois que c'est très marquant, c'est-à-dire que d'arriver à raconter une histoire sans dialogue, c'est quelque chose qui touche le fond du cerveau du lecteur, quoi. C'est-à-dire on est dans le ressenti, on n'est plus dans l'intellect. Et donc voilà, je pense que ça peut marquer, ça peut aller vraiment au fond des tripes, quoi.
Le chaos, c'est le premier tome de la Révolution des damnés. Le deuxième ou le second, je sais pas ce qu'il faut dire, c'est le dernier déjà, le second ou pas?
Oui.
Donc le second, voilà.
À l'avance.
Il est prévu pour quand?
Oui. Bah, il n'y a pas de date pour l'instant, ça dépend des ventes.
Bon, la Révolution des damnés va aussi devenir forcément un film d'animation avec tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, vous avez forcément pensé.
À la base, c'était le but. Il y a eu un gros studio français qui était intéressé, mais après, avec la pandémie, vous savez, je crois qu'il vaut mieux pas se faire trop d'illusions. Donc,
bon, en tout cas, je vous souhaite que ça marche. J'ai très envie de le découvrir. Merci beaucoup, Melody Sizinski, d'avoir été en ligne avec nous. La Révolution des damnés, le tome 1, Le Chaos, est disponible aux éditions Romains. We have a choice to build or destroy, to fight or to come to.
together. Love is a bridge and trust is a gift. We give it and it gets better. There's an energy in the water. There is magic deep in our heart. There's a legacy that we honor when we bring the light to the dark. Whatever brings us together can never tear us apart. We become stronger than ever.
Lead the Way, Gene Aiko, extrait de la bande originale du dernier Disney, Raya et le dernier dragon, sorti début mars sur la nouvelle plateforme de streaming du géant américain et dans les rares cinémas ouverts à ce moment-là, après Yasmine, la princesse arabe, après Pocahontas, la fille d'un chef amérindien, après Mulan, la guerrière chinoise, voici une héroïne originaire d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Raya. Un prénom qui signifie célébration en malais et en indonésien, mais qui suscite un enthousiasme mitigé en Malaisie. Gabriel Maréchaux.
Je m'appelle Raya. Comme toutes les stars, Raya s'est fait attendre. Depuis les premières annonces faites par Disney, se souvient Erna Mayouni, éditorialiste au Malais Mail.
Au début, quand le projet du film a été rendu public, il y eut beaucoup d'excitation. Les gens se disaient, enfin, Disney s'intéresse à notre région, s'en inspire. Mais quand les détails ont été connus, l'histoire du film, j'ai vu les gens peu à peu s'énerver.
Et lorsque Disney dévoile la première bande-annonce, beaucoup cherchent alors à trouver les inspirations de ce film censé se dérouler dans un royaume merveilleux. Tout est scruté sur YouTube.
Regardez cette épée, elle est très intéressante. En Asie du Sud-Est, en Indonésie, Malaisie, au Brunei, aux Philippines et au sud de la Thaïlande, on a des épées semblables ou des dagues. Ça s'appelle des keris, kris ou kalis.
Mais aussi dans la vie réelle, Kayla est une petite Malaisienne de 10 ans et certains détails n'ont pas échappé à son œil averti.
Moi, j'ai remarqué qu'il y avait du batik, qui est notre tissu traditionnel, et aussi quelques plats malaisiens
comme le nasi lemak et nos plats de curry.
Mais pour Erna Mayouni, ce grand mélange d'éléments culturels est décevant. L'éditorialiste a donc annoncé qu'elle n'irait pas voir ce nouveau film Disney sur Twitter.
On ne sait pas quelles sont les références de ce film. Est-ce que Raya est cambodgienne, thaï, laotienne, malaisienne? Et je crois que c'est ça qui a agacé pas mal de personnes en Asie du Sud-Est. Cette façon dont Raya a été présentée, elle est un méli-mélo de différentes cultures et cela donne l'impression que pour Disney, toutes les personnes d'Asie du Sud-Est sont interchangeables. Alors ne nous demandez pas de nous identifier à elle si on ne sait même pas qui elle est. Mais ce qui est drôle, c'est que la diaspora asiatique en Amérique apprécie ce film. Et ils ont une bonne raison pour cela, car presque toutes les doublures sont des acteurs d'origine asiatique. Mais à part pour le rôle principal, il s'agit de personnes qui viennent de Chine, de Corée, et je ne pense pas qu'on demanderait à quelqu'un d'Asie du Sud-Est d'être dans un film qui évoque la Chine. Donc pourquoi l'inverse se fait-il ?
Autre exaspération d'internautes, beaucoup en Asie du Sud-Est ne pourront pas regarder l'histoire qui rend hommage à leur région du monde pour une raison très simple, la plateforme Disney Plus n'est pas disponible dans bon nombre des pays de la zone. Mais même sans avoir vu le film en Malaisie, Raya génère des questions politiques. Y a-t-il une identité commune à toute l'Asie du Sud-Est ? David Lim est professeur à l'Open University Malaysia, spécialiste de l'interprétation culturelle du cinéma sud-asiatique. Pour lui, le procès fait au film Disney est disproportionné et Raya est surtout l'occasion de lancer des débats.
Aucun film, documentaire, dessin animé ou Disney ne peut représenter l'Asie du Sud-Est en général. C'est une région extrêmement diverse et il n'existe pas aujourd'hui d'identité d'Asie du Sud-Est au contour bien défini. Car par définition, l'identité est quelque chose qui se détermine par l'exclusion. Tout ceci est étant dit, de bonnes choses peuvent émerger de ce film qui suscite de l'intérêt. Et qui sait, il pourra peut-être motiver les habitants de cette région à s'intéresser à leur culture et peut-être aussi à s'interroger sur ce que l'Asie du Sud-Est est pour eux.
Et pour l'universitaire qui constate que les pays de la région connaissent souvent mieux les cultures de leurs anciens colonisateurs plutôt que celles de leurs voisins, si ce film peut susciter de la curiosité, c'est une réussite.
Gabriel Maréchaux pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la chanteuse Noémie Westfeld pour son nouvel album Soul of Yiddish. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. RFI, la sélection du mois. On suivait les pointillés.